s'amuse à teaser ce qu'il va dire ou pas dire, et puis le jour où tout le monde l'attend, parce qu'à priori c'était vraiment le jour où on l'attendait, là ben finalement il contrôle toujours, il ne répond pas aux questions qu'on attend.
On a quelque chose qui s'est amorcé et finalement ça a fait pchit, hein, comme on pouvait le craindre.
À aucun moment je ne l'ai senti sincère, je crois qu'il est dans une composition, dans l'idée de rester le maître du jeu, c'est le propre du pervers et c'est le comportement qu'il a eu aujourd'hui.
Tous les jours, elle fait face aux prévenus, aux témoins, aux rescapés, aux magistrats, aux avocats, dans ce prétoire hors norme bâti pour ces mois d'audience historique. Tous les jours, elle déplie sa petite boîte d'aquarelle et couche sur un papier blanc, épais, grainé, les visages de la justice. Elle a 82 ans, elle est la doyenne des dessinateurs en activité. Pour la presse, elle a croqué quelques-uns des grands rendez-vous du XXe siècle. Le procès d'une nazie, Klaus Barbie, elle y était. Vous le savez, depuis 1954, les appareils photo et caméras sont bannis des tribunaux. Les dessinateurs sont donc nos yeux à l'intérieur des prétoires. Alors comment se renouvelle-t-il d'une audience à l'autre? Comment traduire l'émotion qui étrangle le public lors des témoignages de victimes? Comment dessiner leurs mots? Le crime contre l'humanité a-t-il un visage? Le terrorisme a-t-il un visage? La douleur a-t-elle un visage? Le droit a-t-il un visage?
L'instant M. Sonia de Villers sur France Inter.
Noël Ehrenschmidt est mon invité. Bonjour à vous, je suis si heureuse de vous recevoir.
Bonjour.
Alors, 9 mois d'audience, 1800 parties civiles, 330 avocats, 20 accusés et 10 dessinateurs dont vous y êtes depuis le 8 septembre, Noël Ehrenschmidt, et vous irez jusqu'au bout. C'est votre dernier procès.
Absolument, j'y suis depuis le début, pratiquement tous les jours, parce qu'à chaque fois qu'on manque une audience, on se dit justement c'est là qu'il aurait fallu être.
Ouais. C'est le dernier, vous êtes sûr que c'est le dernier?
Oui, tout à fait. Je me donne jusqu'à 90 ans si tout va bien, donc j'ai autre chose à faire après, quelque chose quand même de plus léger. Mais là, je suis absolument enchantée de finir sur ce procès énorme.
Énorme et hors norme, je l'ai dit. Vous êtes entouré de dessinateurs de presse aguerris, mais certains beaucoup plus jeunes que vous. Vous apprenez en les regardant, apprennent en vous regardant.
Moi, je me régale. C'est-à-dire qu'il y en a qui débutent, tous ceux que Charlie Hebdo débute. Je ne peux pas vous dire ce que ça me plaît. Je regarde ce qu'ils font, ils regardent ce que je fais.
Charlie Hebdo en a envoyé trois qui se relaient.
Oui, qui se relaient. Ouais. Et alors, c'est un vrai bonheur parce que j'apprends des choses d'eux. Ils sont tout neufs, ils n'ont aucune idée préconçue, ils se laissent aller. Quelquefois, je leur dis, tiens, tu pourrais dessiner ça, c'est un vrai partage. Honnêtement, je me régale d'être avec eux.
Ils sont doués ?
Ils sont merveilleux, absolument merveilleux. C'est du vrai reportage et je pense que l'avenir est assuré. L'avenir de dessinateur d'audience, à mon avis, il est... La relève est faite, ça, c'est pour moi absolument certain.
Quelle carrière, étrange dans ce métier. Car lorsque vous êtes entrée dans un tribunal la première fois, vous étiez déjà une dessinatrice. Et une dessinatrice accomplie. Vous étiez une femme d'une quarantaine d'années. Vous dessiniez pour les enfants. Vous dessiniez pour Okapi, Astrapi. D'ailleurs, peut-être que je regardais moi vos dessins quand j'étais petite. Pomme d'Api. C'est évidemment, c'est les titres du groupe Bayard avec lesquels j'ai grandi. Vous étiez si loin du monde de la justice. Vous y êtes entrée par hasard dans un tribunal.
Oui, mais j'avais déjà quand même été avant chez Mère Teresa. On m'avait envoyée là-bas pour voir comment j'allais réagir. Donc, quand vous passez de la vie confortable de la région parisienne à Calcutta, vous voyez si vous pouvez accepter de vivre le choc. J'avais très bien vécu le choc, j'avais adoré. Donc, au moment, j'avais 47 ans quand j'ai commencé avec Barbie. Mais là, c'est un moment où je cherchais une deuxième voie. Je vais dire une chose très importante, la cinquantaine est formidable pour démarrer. On se connaît, on sait ce qu'on ne veut pas, en théorie, et à ce moment-là, on peut tout découvrir. Bravo, 50 ans, génial.
Donc, en fait, c'est l'âge où on réinvente sa vie.
Exactement. Ouais. Et j'étais journaliste, puisqu'à l'époque, quand on était pigiste, on était journaliste. Ouais. J'avais ma carte depuis 1974. J'entre au palais de justice de Paris, je suis en assise, je m'assieds avec ma plume, mon encre de Chine. À l'époque, je connaissais pratiquement pas l'aquarelle. Je vois le procureur parler, j'ai un choc et je me suis dit, ma vieille, tu cherchais ta seconde voie, elle est là. Et du jour au lendemain, je suis devenue dessinatrice d'audience.
Et le journal La Croix vous envoie au procès Barbie. Écoutez cette archive, Noël Ehrenschmidt.
Klaus Barbie est arrivé il y a quelques instants dans le palais de justice de Lyon. Son convoi, fortement escorté, a traversé la ville par un itinéraire qui a été choisi au dernier moment. Il est rentré dans le dépôt et il a été aussitôt emmené dans la cellule de repos que nous vous avons montré l'autre jour, où son avocat, Maître Vergès, est venu le voir, ainsi que le médecin du SAMU qui doit tout au long du procès surveiller l'état de santé de l'accusé.
Noël Ehrenschmidt, moi, ce qui m'a bouleversée en entendant cette archive choisie par Anne-Cécile Perrin, notre réalisatrice, c'est que pour moi, tout ça fait partie de l'histoire avec un grand H. J'étais petite fille. Et c'est d'un seul coup de prendre conscience qu'il était vivant, que c'était un corps, que c'était un visage, qu'il était présent au milieu de vous, Klaus Barbie, le nazi, dans cette salle d'audience.
Il a été présent très peu de temps, puisqu'il a demandé à être ramené dans sa cellule. Et la plupart des victimes ont parlé devant une chaise vide, ce que je trouve encore plus fort. Je pense que ça a dû libérer la parole. Il était là, son avocat était là, la chaise était vide. Et lorsqu'on a pu entendre, ce qu'on s'en prend plein la gueule, mais c'est des souvenirs de témoignages de extraordinaires de femmes qui s'étaient habillées en dimanche avec les ongles faits, maquillées, coiffées et qui crachaient tout ce qu'elles avaient eu à vivre. 30 ans plus tard, pour moi, c'était énorme et j'ai adoré.
Ouais, ouais. Parlons des victimes, justement, Noël Ehrenschmidt, parce que ce dont j'ai pris conscience aussi, c'est qu'en 1987, les rescapés des camps, pour beaucoup, étaient encore vivants. Vous les avez donc vus, vous les avez dessinés. Le statut d'une victime quand son premier procès, c'est celui de Klaus Barbie, il ne peut pas être le même avant et après.
Non, mais alors ce que j'ai trouvé formidable avec la plume, jamais je pourrais refaire ce que j'avais fait à ce moment-là. Je dessinais les victimes à des moments différents de leur témoignage. Mmh. C'est-à-dire quand elles arrivaient droites, accrochées à la barre, et au milieu de l'émotion de leur témoignage, le visage avait changé et toute l'émotion de ce qu'elles disaient passait dans leur regard. Je sais pas si je peux... Je vais vous dire aussi quelque chose. J'ai dessiné, et j'en suis fière, un Barbie ému. Mmh. Il y a un moment où Pierre Truche, procureur, prend la parole, se lève avec sa crinière blanche et parle à Barbie de ses propres enfants, des enfants de Barbie. Et j'étais tout à côté, à 50 cm, et je dessine, dans l'espace d'une seconde, un Barbie ému. Et ça, ça a été la grande leçon. Derrière chacun, derrière toute personne et tout accusé, est-ce qu'on va découvrir une humanité qui jusqu'à présent était caché. Ce jour-là, ça a été possible. C'est très rare, mais pour moi, c'est ça la dignité du travail qu'on fait, découvrir par derrière ce qu'on ne voit pas.
Compte rendu de l'audience d'hier, Salah Abdeslam, il devait parler, a-t-il parlé, les attentats du 13 novembre ?
Quel était le rôle de Salah Abdeslam le soir du 13 novembre 2015 ? Devait-il faire partie des kamikazes et passer à l'acte avec un gilet explosif ? Ces questions, la Cour attend depuis des semaines qu'il y réponde. Mais aux premières minutes de l'audience, il invoque son droit au silence. L'avocat général s'adresse directement à lui.
La lâcheté est la marque de fabrique des terroristes. Pas une once de courage chez vous. C'est vraiment de la lâcheté à l'état brut.
Seule cette avocate de victime va le convaincre de parler. À elle, il veut bien répondre. Pourquoi n'a-t-il pas activé sa ceinture explosive, demande-t-elle d'abord.
J'ai renoncé à enclencher ma ceinture, pas par lâcheté, pas par peur, mais je ne voulais pas, c'est tout.
Longtemps, il a affirmé que sa ceinture n'avait pas fonctionné, alors pourquoi a-t-il menti ?
J'avais peur du regard des autres, j'avais 25 ans, c'est ça aussi, j'avais honte, tout simplement.
Parce qu'un procès n'est jamais écrit d'avance, Noël Ehrenschmidt, c'est pour ça que vous continuez
absolument, je trouve
de sillonner les prétoires.
On ne sait jamais ce qui va se passer. Pendant une audience, on peut toujours lire le programme, on peut toujours s'asseoir à la place qu'on aura choisie, et puis il va se passer ce qui va se passer. Et c'est ça que j'ai trouvé extraordinaire hier, c'était typique. On s'assied, Abdeslam enlève son masque, répond au président « je ne parlerai pas », et pendant plus d'une heure, imaginez ce que c'est un silence dans une salle d'audience. La parole est forte, mais alors le silence, il est insoutenable, il est énorme. Question après question, rien. La personne avec son masque, il avait demandé à s'asseoir, il remet son masque, ça veut dire quelque chose, les masques, en ce moment.
Oui, il y a, oui. Et vous qui dessinez les visages.
Qu'il faut dessiner des gens au travers des masques. Oui. Et là, il se rassied, le président continue de poser ses questions, ensuite les deux assesseurs, ensuite l'avocat qui fait un portrait terrible de l'accusé, et puis tout à coup, au bout de la salle, puisque nous on est juste dessous la cour, une petite silhouette qui s'élève avec une voix très douce, et voilà que le même Abdeslam, gardant son masque, il a parlé masqué, répond. Ça, c'était sidérant pour tout le monde, et on voit, nous, les journalistes, les avocats, pas les journalistes, mais les avocats, reprendre leur tablette et écrire frénétiquement
tout ce qui se passait. Vous écrivez aussi, Noël Ehrenschmidt, vous écrivez, vous dessinez d'une main, vous écrivez de l'autre. Oui. Pourquoi écrivez-vous en même temps que vous dessinez ?
Eh bien, parce que justement, je pense que nous sommes les passeurs de la parole, les dessinateurs. Donc le dessin, il va s'accompagner des mots. Je suis journaliste, je suis reporter. Donc, les mots sont essentiels. Et même si le dessin traduit les mots, quelquefois, il y a des phrases tellement fortes oui. que ces phrases imposent qu'on les écrive. Mm-hmm. Et il m'est arrivé de trouver les mêmes phrases dans la chroniqueuse judiciaire qui était dans la salle. Quelquefois, il y a une osmose. C'est un mot indispensable.
Qui cristallise.
Qui cristallise.
C'est ça.
Et
c'est
à ce moment-là, il faut l'écrire avec mes deux mains. C'est formidable. J'écris de la main droite, je dessine de la main gauche, tout est facile.
Noël Ehrenschmidt, donc petite silhouette frêle, vous êtes habillée tout en noir. Vous avez sur vous une veste. Alors, vous avez clippé sur les bords de votre veste toutes vos pinces à dessin. Vous avez des mines de plomb qui sont entrées dans des poches spéciales. Vous avez votre carnet, votre boîte d'aquarelle. L'aquarelle, c'est donc cette peinture à l'eau qui est si frêle, si fragile. J'aimerais que vous nous racontiez comment vous l'utilisez.
C'est ma complice. Je lui fais une confiance totale à l'aquarelle. Et j'ai pris l'aquarelle parce que on la pose à la vitesse de la parole oui. et du moment.
Oui.
J'ai bien entendu.
Et pourtant, il faut qu'elle sèche.
Ben justement, on a le temps qu'elle sèche. Et si jamais elle ne sèche pas, j'ai un séchoir, bien sûr, un tout petit séchoir que n'utilise que pendant les interludes, pendant les pauses. Vous pensez bien, mais mon petit séchoir, il est connu de tout le monde. Il m'est arrivé de mettre énormément d'eau, puisque je mouille, oui. puisqu'il faut que le pinceau, il raconte. Pour raconter, il faut qu'il soit humide. Il faut lui faire confiance au pinceau. Il faut faire confiance à l'aquarelle. Quelquefois, elle ne fait pas ce que je voudrais. Ben, tant mieux, c'est elle qui a raison. Et donc, je sèche ou je ne sèche pas. Quand l'interview est assez longue, je n'ai même pas besoin de sécher. Et à ce moment-là, c'est une espèce d'osmose entre le dessin, ce que j'entends, ce que je vais écrire et l'aquarelle. L'aquarelle m'a toujours aidée et c'est toujours elle qui a raison.
Est-ce que l'aquarelle permet de dessiner des choses très fines ? Ou est-ce que les traits d'un visage, c'est la mine de plomb qui vient en renfort ?
Pour moi, c'est la mine de plomb. Mmh. L'aquarelle, elle est jetée avec un pinceau du 12, c'est-à-dire un pinceau assez épais. Justement, je pense que l'aquarelle ne doit pas s'encombrer de détails. Elle donne l'idée générale et le crayon, c'est lui qui va donner la force du détail.
Et racontez-nous comment, d'un trait de crayon, vous transformez un visage. Quand je disais le crime contre l'humanité a-t-il un visage ? Le terrorisme a-t-il un visage ? Le méchant, vous qui avez dessiné pour les enfants, vous avez dessiné des méchants. Est-ce que ce sont des méchants ? Parfois, en appuyant une ride, en transformant un sourire, en transformant des rides autour de la bouche, on fait d'un visage un rictus.
Oui, mais on ne fait pas. Je vais faire ce que je vois. Il ne faut pas oublier que moi, je dépends de ce que je vois. Je ne vais pas faire un méchant. Vous avez un méchant qui peut avoir une expression suave. Oui. Vous avez un personnage extrêmement gentil qui peut être intérieurement extrêmement pervers. Donc, c'est ça la force du dessin, c'est d'arriver à saisir au travers de ce que je vois ce que cette personne est en réalité. Encore une fois, ça va vous paraître énorme, je fais confiance à ma main, je fais confiance à mon crayon, et je fais confiance au travail que je suis en train de faire et que je fais depuis 40 ans.
Un dessin doit-il être beau ?
Eh bien, c'est une question essentielle, justement pas. Combien de fois j'ai fait des dessins qui n'étaient pas terminés ? Je tiens énormément au blanc. L'aquarelle, elle couvre le papier qui est blanc. Quelquefois, l'aquarelle n'est même pas nécessaire. J'essaye de donner par la couleur ce qui est important dans un dessin, et quelquefois, il va rester blanc, ou la plus grande partie va rester blanche, et seul le petit détail important, je le mettrai en couleur. Il faut qu'il y ait une liberté totale. On n'est pas obligé de faire un beau dessin. On n'est pas obligé de finir un dessin. Ce qu'il faut, c'est exprimer ce qu'on voit, ce qu'on ressent et ce qu'on va faire passer au lecteur.
Vous étiez présente au procès Papon, vous étiez présente au procès Touvier. Ça, c'était les années 90. L'aquarelle était déjà avec vous ?
L'aquarelle était déjà avec moi. Je l'avais découverte en partant dans un reportage qui est sur les traces des boat people. J'avais été à Hong Kong, j'avais été au Vietnam. Et là, j'avais découvert l'aquarelle. Mais l'aquarelle, je la portais en moi sans le savoir, puisque du jour au lendemain, je suis devenue aquarelliste. Je suis allée à Paris quand j'ai su que je devais partir pour montrer un peu ce que je savais faire, puisque j'avais fait que du noir et blanc en procès. Et c'est venu tout seul. Du jour au lendemain, elle a été ma compagne. On s'entend à merveille, c'est ma complice. Et je continue maintenant de lui faire confiance.
Oui. Alors, j'aimerais, quand vous êtes comme ça pendant 8 mois, parce que c'est très long, les procès que je viens de citer, ce sont que des grands procès historiques, ce sont des procès très longs. Comment on se renouvelle? Comment on retrouve de l'énergie? Comment on fait en sorte de ne pas refaire le dessin de la semaine dernière?
Très important, il faut se renouveler dans un lieu clos qui est toujours le même. Au procès Papon, c'était formidable, j'avais le droit d'être à côté de Papon, de dessiner Papon avant qu'il entre en salle d'audience, j'étais dans une liberté totale. Là, il faut trouver des axes différents. Quelquefois, je dessine à côté des victimes. Et puis, je peux dessiner aussi la salle des pas perdus. Il se passe des choses partout dans la salle des pas perdus. Il se passe des choses à l'extérieur. J'ai dessiné toute l'arrivée par le vestibule de Harley et par la façade de Harley. Tout ça, c'est des lieux que je connais depuis 93 où j'ai dessiné les carnets du palais. Il faut utiliser tous les moments. J'entre par une porte, je vais dessiner la porte. Je vais dessiner les gendarmes, je vais dessiner les pompiers, je vais dessiner les dames en rouge, je vais dessiner les dames en bleu, les psychologues, celles qui aident. Je pense qu'un procès est fait de tous les gens qui travaillent dans un même lieu pour le confort.
Et là, la particularité, c'est que c'est un procès pour terrorisme. Donc, les forces de l'ordre sont, j'imagine, extrêmement présentes dans le prétoire.
Et il se trouve que j'ai fait un livre pour les gendarmes, je m'entends très bien avec eux. Et justement, je les ai dessinés continuellement dans la salle d'audience. C'est rare d'avoir autant de gendarmes dans la salle d'audience. Donc, bien entendu, il faut raconter aussi ça qui est différent. Il faut raconter aussi les CRS qui ferment les voies à l'extérieur. Je pense que dans un reportage aussi long, on peut se permettre de dessiner tout le décor, tout l'entourage, de façon à ce que le lecteur y soit dedans. Le but quand même d'un dessin qui va être vu, c'est que les gens se retrouvent là où j'étais.
Le dernier procès de Noël Ehrenschmidt. Merci beaucoup d'avoir été mon invité ce matin. Merci pour cette passion intacte et merci pour tout ce que vous avez transmis à la génération qui suit. Je voudrais vous donner rendez-vous à vous tous aussi lundi soir au studio 104 de la Maison de la Radio. J'ai l'honneur d'être sur scène et d'animer ce soir-là une grande soirée d'hommage à Gisèle Halimi. Alors Gisèle Halimi, voilà, immense avocate de grands procès médiatiques. Noël Ehrenschmidt, vous avez eu l'occasion de couvrir les procès auxquels a participé Gisèle Halimi ? Non. Alors voilà, donc on lui rendra hommage lundi soir. Il y aura sur scène des avocats, des militants, des historiens, des grands procès, des témoins de Bobigny et d'Extre. On reparlera évidemment des combats anticoloniaux, de l'IVG et du viol. Bref, de toutes les causes défendues par Gisèle Halimi. C'est gratuit, l'entrée est libre, mais réservez vos places. Dépêchez-vous, c'est sur le site de la Maison de la Radio.